franceinter.fr.
La revue de presse, bonjour Hélène Jouan.
Bonjour.
Fin d'une longue séquence électorale hier, on commence par une revue des unes de vos journaux en kiosque ce matin.
Oui, pas beaucoup d'effets de manche ni de manchette en fait ce matin. Titre cinématographique pour la Provence qui signe la fin du long travelling électoral par sa une sur la nouvelle vague. Macron a sa majorité, titre sobrement la dépêche du midi. La confirmation en marche pour la Voix du Nord. Le pari gagné à la une des Échos. Macron fait chambre à part pour Libération quand quelques-uns relativisent déjà cette victoire du parti du président. Majorité absolue, approbation relative à la une du site Mediapart. L'indépendant catalan titre lui aussi sur En Marche, mais.
Un grand oui pour le parti du président, mais quelques mais donc.
En deux élections et quatre tours de scrutin, la révolution En Marche, à laquelle personne ne voulait croire, a déferlé sur la France comme un tsunami, commente le directeur du Figaro Alexis Brézé dans son édito. Carton plein, renchérit Nicolas Bétou dans l'opinion. Carton plein, mais c'est un redoutable triomphe, prévient-il. Car le mais, eh bien, c'est avant tout l'abstention historique, on l'a dit. Ce record qui fait dire à l'humanité à sa une, carton plein et urne vide pour Macron, urne à moitié pleine sans aucun doute, mais pas moins pour Macron que pour d'autres. Ça n'empêche pas Patrick Appelmuller dans l'Humanité d'affirmer que si Emmanuel Macron détient les pleins pouvoirs à l'Assemblée, le pays ne les lui a pas accordés. Nombreux sont les éditorialistes à pointer, comme Laurent Baudin dans l'Alsace, que cette abstention est un avertissement. Il n'y a pas de blanc-seing accordé au nouveau président. La Croix met aussi à sa une un succès terni par l'abstention. Oui, attention, c'est un triomphe en trompe-l'œil, écrit Jean-Christophe Ploquin. L'ampleur de l'abstention montre à quel point la société reste attentiste, pleine de contradictions. Hervé Chabot dans l'Union prévient « Le gouvernement doit être humble et méthodique pour ne pas être vite bousculé par la rue ». L'autre « mais », c'est le correctif opéré entre le premier et le second tour des législatives avec une victoire absolue, certes, mais moins importante qu'attendue. Guillaume Tabar dans le Figaro l'explique ainsi. Dimanche dernier, les électeurs ont voulu humilier le vieux système politique, renverser les citadelles établies et plébisciter les figures nouvelles. Hier, ils ont voulu inviter les macronistes à l'humilité. Pour réussir désormais, Emmanuel Macron doit organiser le paysage nouveau, passer de force de destruction massive à force de construction active, prévient-il. Dans Libération, Laurent Geoffrin est lui aussi admiratif du coup de maître. On a beau s'habituer à tout, écrit-il. La séquence électorale achevée dimanche est toujours aussi extraordinaire. Il y a un an, Macron n'avait rien ou presque, aujourd'hui il a tout. Mais attention, met-il d'ores et déjà en garde. Dans la future chambre, l'opposition sera déséquilibrée. La droite aura un groupe réduit, mais conséquent, quand la gauche est ramenée au minimum. La tentation se fait jour alors pour les macronistes de droitiser leur politique pour neutraliser leurs principaux adversaires. Le macronisme va-t-il se doter, sans le dire, d'un nouveau slogan ? Ni gauche, ni gauche, ce serait un détournement de vote, affirme-t-il.
Un rapide coup d'œil sur les réactions dans la presse étrangère, Hélène.
Plus enthousiaste peut-être en fait de la victoire d'Emmanuel Macron que la presse française, et pour cause, chacun la voit à l'aune de la situation du paysage politique dans son propre pays. La Frankfurter Allgemeine Zeitung salue l'infinie sagesse des Français. La majorité de Macron sera franche, mais pas écrasante, ce qui est une bonne nouvelle pour la démocratie, explique le quotidien allemand, dans un pays habitué aux coalitions et à la recherche des consensus. Macron a réussi un coup brillant, les Britanniques pourraient-ils en faire de même, s'interroge le Guardian. La réponse est non, reconnaît-il. Les Britanniques qui se préparent depuis ce week-end à un éventuel putsch contre leur première ministre, Theresa May, qui a échoué dans à peu près tous les domaines. En Italie, le Corriere della Sera salue le Napoléon chanceux qu'est Macron. La vérité, écrit le quotidien, c'est qu'Emmanuel Macron est la bourgeoisie française, une bourgeoisie qui n'en pouvait plus des vieux partis et des vieilles élites, mais qui ne voulait pas d'une rupture trop violente. Macron a en quelque sorte gagné à la loterie, mais contrairement à ses homologues italiens, lui n'a pas perdu le billet. Allusion à Renzi qui a échoué à mettre durablement en marche Italie et sans doute aussi au retour sempiternellement annoncé de Berlusconi, vieux parti, vieilles élites. Le Time relève qu'Emmanuel Macron a exaucé son souhait de faire disrupter la vie politique en imposer des figures nouvelles. Un fermier, un prof, un génie des maths, souligne l'hebdo américain. Reste qu'il devra négocier avec des voix fortes qui font aussi leur entrée au Parlement. à l'extrême droite aussi bien qu'à l'extrême gauche.
Quelques zooms, Hélène, sur quelques députés qui vont constituer la nouvelle Assemblée.
Tous vos journaux proposent des portraits de novices. Dans Le Parisien, par exemple, ceux de la Benjamine de La République En Marche, Stéphane Degoy, 24 ans, élu en Savoie. Celui de François Ruffin, France Insoumise, le héros des ouvriers dit Libération, qui a effectué une remontada picarde pour gagner dans la Somme. Oui, car c'est un fait politique majeur. Cette Assemblée marque avant tout un profond renouvellement, on l'a dit, et une féminisation accrue. 223 femmes élues, c'est pas encore la parité, mais enfin, on va peut-être finir par s'en approcher. Les nationalistes en marche à la une de Corse Matin. L'Assemblée nationale se corse, titre du papier du Monde pour raconter l'entrée au Palais Bourbon de 3 députés nationalistes corses. Que faire de cette victoire historique qui prolonge celle enregistrée par les autonomistes et les indépendantistes à l'Assemblée et à l'exécutif régional? Eh bien, dans Le Parisien, le nouvel entrant Jean-Félix Acquaviva se présente comme un ambassadeur de la Corse à Paris. Voilà ce qu'il entend faire de son rôle. Renouvellement donc, oui mais, car il y a encore un mais, ceux qui vont se faire entendre ne sont pas forcément des novices en politique. Le Huffington Post consacre un article à ces grandes gueules, les fameuses voix fortes évoquées par le Time, qui font leur entrée au Palais Bourbon, avec notamment Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon à chaque extrémité de l'hémicycle, qui ont tous les deux le même objectif, s'afficher comme l'opposant numéro 1 à Macron. Face aux novices, face à la victoire à la Pyrrhus de la droite, première opposante en nombre mais qui va sans doute encore se diviser à l'Assemblée nationale, face au naufrage du Parti socialiste, ces deux-là, prédit Françoise Fressos dans Le Monde, seront l'opposition à Macron, leur verbe sera leur force. Ce n'est pas le moindre des paradoxes de la période, écrit-elle. Le nouveau chef de l'État revendiquait la bienveillance en politique, eh bien il devra gérer au Parlement une opposition autrement plus virulente que dans le passé.
Merci à vous Hélène Jouan pour la revue de presse. Bonjour Sophie Aram.
Bonjour Patrick, bonjour à tous.
Vous serez là comme chaque lundi à 9h05.
Et oui mais non, là nous sommes dans un dispositif post-électoral, donc on retrouve Tata Fatiha.
Et voilà. Comme chaque lundi,
bah oui, après les élections.
Voilà, très bien. À tout à l'heure, Sophia. Et dans un instant, notre deuxième invité politique de cette matinale, Alexis Corbière, nouveau député de la Seine-Saint-Denis, député France Insoumise.